Ses regards sur le monde sur Canal M. Ici Michel Poulain en votre compagnie. Diane est absente pour cause de maladie aujourd'hui. Alors nous aurons bien entendu nos chroniqueurs Claudia Nigrelli, Anne Jarry et Christiane Campagna qui va nous parler de ses nouvelles. Mais on va également recevoir M. Serge Audet de la Fondation des élèves de la commission scolaire de la région de Sherbrooke dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire. Christiane Campagna, bonjour.
Bonjour.
Vous avez des nouvelles pour nous aujourd'hui?
Oui, des très bonnes nouvelles à part ça. Le gouvernement des États-Unis a ratifié le traité de Marrakech, devenant ainsi le 50e pays à le faire. On rappelle que le traité de Marrakech vise à améliorer la mise à la disposition dans le monde entier de textes spécialement adaptés à l'usage des personnes ayant une déficience visuelle ou des personnes ayant d'autres difficultés à la lecture des imprimés. Ça peut être parfois des troubles d'apprentissage sévères, par exemple. Le traité facilite la création et la diffusion transfrontière des ouvrages accessibles. C'est très important, cette ratification-là, parce que les États-Unis, c'est là qu'on trouve le plus grand nombre de textes en anglais dans des formats accessibles comme le braille ou les formats audio adaptés. Donc, dans 3 mois, avec l'entrée en vigueur du traité de Marrakech aux États-Unis, ce sont quelque 550 000 textes accessibles qui deviendront immédiatement disponibles pour les personnes des pays ayant adhéré au traité, là, selon les chiffres de la National Federation for the Blind.
550 000?
Oui.
C'est énorme.
C'est beaucoup, beaucoup.
Le Canada fait partie du traité de Marrakech?
Oui, oui.
Et les États-Unis étaient... Ça prenait du temps.
Oui, ça prenait du temps. Mais le Canada, il faudrait que je regarde dans mes archives, on en avait parlé, là, mais le Canada l'a ratifié l'an dernier, je pense.
Excellent.
Est-ce que vous écoutez les télé-réalités de cuisine?
Parfois, mais pas toujours.
Pas toujours. En France, il y en a une très, très populaire qui s'appelle Le meilleur pâtissier. Et récemment, ils avaient un spécial vedette et célébrité. Je ne sais pas c'est quoi la différence entre les deux. Mais le chanteur non-voyant français Gilbert Montagnier a participé. Alors, on raconte qu'avant que le tournage commence, lui et son épouse sont venus faire du repérage. Ils ont compté le nombre de pas qui séparaient le frigo.
Parce qu'il est aveugle.
Il est complètement aveugle. Oui. Donc, fallait savoir où chaque chose était positionnée dans la cuisine. Ensuite, pendant les épreuves, bon, comme tous les autres candidats, il était accompagné d'un chef, mais aussi il avait une assistante, Célia, pour l'assister dans certains gestes qu'il ne pouvait pas réaliser seul. C'est elle qui nettoyait après lui, l'aidait à aller un petit peu plus vite parfois là, pour certaines tâches ou en lui refilant, par exemple, les ustensiles. Concrètement, tous les pots contenant les ingrédients ont été étiquetés en braille. Je trouve que c'est une belle occasion de sensibilisation à la réalité là, du quotidien des personnes ayant un handicap visuel. Les recettes ont été aussi fournies en braille. Sur le plan de travail, on avait mis du ruban adhésif pour indiquer certaines choses. Et il avait droit à une balance parlante, évidemment, pour peser les aliments.
Ben oui.
Mais malgré toutes ces précautions, il dit que certains défis ont été difficiles à réaliser, notamment séparer le jaune du blanc.
Ah. Hein? Est-ce que c'est une émission semblable au Chef qu'on voit
à
Radio-Canada?
Oui, c'est un peu...
Donc, c'est une compétition aussi?
C'est un peu une compétition. Et dans les critères sur lesquels on juge les recettes, on goûte, bien entendu, mais on juge généralement aussi l'aspect de la recette. Et on dit que même si on ne lui a pas fait de traitement de faveur, ça, c'est l'aspect sur lequel on était peut-être un petit peu plus clément avec M. Montagnier.
Donc, séparer le blanc du jaune...
Oui, il paraît que c'est très difficile, ça, parce que on ne voit pas ce qu'on fait, puis on ne peut pas se fier autant sur le toucher que pour d'autres aliments, au risque de briser et de rater son coup. Voilà. Mais ne pas juger le visuel, moi, quiconque juge mes recettes, ce serait une bonne idée aussi. Je cuisine bon, mais je cuisine pas beau.
Ah, mais si c'est bon!
Si c'est bon, c'est ça qui compte. Et ben enfin, je vous parlerai encore de cinéma cette semaine, toujours en France aussi, cette fois-ci les prix Marius. C'est un prix qui en est à sa 2e édition. Il y a un jury composé de 100 personnes, 91 avec une déficience visuelle et 9 voyants. Et ça récompense la meilleure audio-description de l'année. Ça sera remis le 19 février à 18h au Centre national du cinéma de Paris. Donc en lice, 7 films nommés par l'Académie des Césars. Avec ce nouveau prix, la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes souhaite s'inscrire dans le temps pour ouvrir les yeux du grand public sur la nécessité d'une culture accessible à tous. Alors donc, on va juger la transcription audio. La semaine dernière, c'était sur scénario, on choisissait quel film allait avoir sa vidéo description produite. Là, c'est une fois que c'est fait, c'est juger ceux pour lesquels ça a été le mieux fait, avec des critères comme les infos écrites à l'écran, les génériques, les noms, les années, la voix, l'intonation et la neutralité, la rédaction qui doit être simple et concise, mais aussi la cohérence de la description. En 2018, c'est l'audiodescription du film Petit Paysan, faite par Morgane Renault, qui avait remporté les suffrages du jury.
Ça pourrait être le genre de choses qu'on a au Québec dans notre industrie du cinéma.
Ce serait une très bonne idée.
On a la même chose, le même genre de concours.
On pourrait organiser ça, nous.
Oui. On va prendre ça sur nos épaules.
Exactement. Et puis, des nouveaux émojis sont apparus, dont certains représentants.
Arrêtez donc, vous!
Oui, le consortium Unicode qui gère les émojis a finalisé la liste des émojis qui vont faire leur apparition en 2019. Beaucoup de diversité, notamment le handicap, avec des prothèses de jambes et de bras, des oreilles avec des appareils auditifs, des personnes s'exprimant en langue des signes, des personnes marchant avec une canne blanche et d'autres se déplaçant en fauteuil roulant manuel ou électrique. On rappelle quand même aux gens de ne pas mettre les émojis entre les mots d'une phrase sur les médias sociaux notamment ou dans leur texte, parce que pour les personnes non-voyantes qui utilisent un lecteur d'écran, ça rend la lecture plus compliquée.
Et qu'est-ce qui se passe justement avec les émojis pour les personnes non-voyantes?
Bien, si le logiciel reconnaît l'émoji, il va le décrire.
Ah, d'accord.
Et s'il ne le reconnaît pas, il va dire qu'il y a un symbole qu'il ne reconnaît pas, mais d'une façon ou d'une autre, au milieu d'une phrase, ça interrompt la compréhension.
On apprend beaucoup de choses avec vous, madame.
Ça fait plaisir.
Merci infiniment. À la semaine prochaine.
Il était une fois des gens heureux. C'était en des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent. Ils savent encore les mots des romances anciennes où ça disait toujours le monde est beau. Il était une fois des gens heureux qui disaient toutes choses avec les yeux, leurs yeux tout pleins de confiance en l'univers immense qu'ils disaient béni de Dieu. Il était une fois des gens de paix, mais vinrent les années de vent mauvais. À table, il y eut des chaises vides, aux yeux vinrent les rides, il ne resta plus rien de vrai. Il ne faut pas chercher à savoir où s'en va le temps. Il s'en va pareil aux glaces dans le Saint-Laurent. On fait toute la vie semblant qu'on va durer toujours, pareil au fleuve dans son cours. Et c'est peut-être rien que pour ça qu'on fait des enfants. Il était une fois des gens heureux, et tout était si simple et merveilleux. Il y avait le ciel, il y avait la terre, c'était quand les mystères pouvaient rester mystérieux. De confiance en l'univers immense, clair et juste et merveilleux, un univers béni de Dieu. Il était une fois des gens heureux, c'était en des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romances anciennes où ça disait toujours le
C'est la semaine de la persévérance scolaire et ce sera le sujet avec notre invité tout à l'heure de la Fondation de la Commission scolaire des élèves de Sherbrooke. Mais on va parler à Claudia Negrelli et on souhaite aborder justement tout l'aspect persévérance pour les personnes en déficience visuelle à l'école. Bonjour Claudia.
Ben bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, vous?
Ça va très, très bien. Claudia, on parle de persévérance scolaire. J'imagine que pour les personnes qui ont une déficience visuelle, c'est un défi de taille de demeurer persévérant et de rester à l'école.
C'est clair. Écoute, on parle persévérant pour les non-voyants. À ce niveau-là, c'est clair que, bon, c'est pas soit plus facile ou plus difficile, mais ça demande la persévérance. C'est clair. Et c'est pour ça qu'ils disent que la majorité des gens non-voyants sont résilients aussi. Hein? Donc, on passe par beaucoup de chemins quand on est non-voyant. Donc, on fait face à beaucoup, beaucoup de défis dans la vie.
Et il y a des deuils, j'imagine, aussi. Il y a des deuils à faire.
Il y a des deuils, beaucoup de deuils, oui. Dépendant de quand nous sommes diagnostiqués, que ce soit à la naissance ou plus tard, je dirais que moi, ça a été plus tard dans ma vie que j'ai été diagnostiquée. C'est beaucoup plus difficile à accepter, faire le deuil et tout ça. Donc,
Et comment on en arrive à persévérer? Prenons le volet académique, par exemple.
Oui.
J'imagine que, bon, il y a des aides techniques, mais c'est pas tout. On a besoin d'avoir des gens autour de nous.
Oui, c'est clair. Écoute, c'est sûr qu'il y a des aides autour de nous, OK? Mais par contre, qu'est-ce que moi j'ai goût de te dire, c'est qu'il faut vraiment aller chercher ces aides-là. Il n'y a pas personne qui va cogner à notre porte et qui va dire, voilà, ceci, on présente plein d'aides. Donc, il faut vraiment faire la vérité de la chose dans la société qu'on vit aujourd'hui. Les aides sont toutes là, mais il faut vraiment les demander. Il faut faire pas avoir peur, justement, d'aller chercher ces aides-là, que ce soit des aides, comme vous dites, des aides techniques pour l'école ou quelqu'un qui va nous aider à prendre nos notes. Parce qu'il faut vraiment sortir de la fameuse zone de confort quand on a un handicap visuel à n'importe quel âge.
C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on avait reçu un peu avant les fêtes Alexandre Benoît qui a terminé ses études universitaires et qui a fait son entrée chez Google aux États-Unis. Il a maintenant un emploi de ce côté-là en informatique. Et ce qui caractérisait ses commentaires, c'était justement qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens autour de lui, beaucoup d'amis qui lui donnaient un gros coup de main. Et ça, ça l'a aidé à persévérer et à réussir ses études.
Oui. Oui, ben moi, dans mon cas, je peux témoigner aussi qu'il y en a beaucoup autour de moi qui m'inspirent moi-même. Hein. Donc, moi, je peux les inspirer, mais eux autres, ils m'inspirent moi-même. Ils me tendent la main quand j'ai besoin. Donc, c'est donnant-donnant. Quand on ouvre la porte aux opportunités qui peuvent rentrer vers nous, c'est sûr que nous, on aide les autres, mais les autres nous aident aussi. Hein. Donc, moi, je trouve ça très important d'avoir un esprit ouvert, d'être justement persévérant, hein, ça se dit. Donc, vraiment de vouloir faire un changement, de vouloir réussir, puis que ce soit juste de finir les études secondaires ou pas secondaires, il y a toutes des possibilités qui s'offrent à nous. Il faut juste être prête à accepter de vouloir faire.
Et d'accepter l'aide. Vous donnez beaucoup de conférences et justement, les gens doivent vous parler justement de votre persévérance, non seulement au niveau académique, mais aussi au niveau de votre vie. Les gens doivent vous en parler dans le cadre de vos conférences.
Oui, beaucoup. Ça me touche énormément parce que pour moi, je fais juste vraiment qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie. Hein, donc, moi, je continue, j'ai un travail, j'ai une maison, je m'occupe d'une maison, je fais mes affaires. Donc, pour moi, ça me touche énormément quand les gens ils me disent « Ah, wow, qu'est-ce que tu as dit? » Ça m'aide à moi de continuer dans la vie parce que pour moi, je vis une vie, entre guillemets, normale. Donc, c'est certain que je comprends que pour quelqu'un qui n'a pas un handicap visuel, d'avoir cet enjeu de plus, ça leur fait face à que peut-être eux autres sont corrects dans la vie de tous les jours, donc faire un café, se promener dans la rue, vu qu'ils voient super bien, ça cause moins d'enjeux que moi. Mais c'est sûr que moi, je le prends, je prends tous les bons commentaires quand je fais mes conférences, parce que je me dis, si je peux en inspirer au moins une à faire un changement dans sa vie, ou un à faire un changement dans sa vie, ben pourquoi pas? C'est ça qui me fait continuer aussi à parler dans les écoles, surtout à dire aux jeunes d'être ouverts parce qu'on est tous différents. Hein? Donc, quand on a de la persévérance, que ça soit, comme vous dites, académique ou dans la vie en général, on est tous différents. Puis mes deux messages, c'est justement d'avoir la persévérance puis d'accepter la différence de chaque individu.
Quand vous faites vos conférences, et si vous êtes arrivé parfois de rencontrer justement des jeunes en déficience visuelle et qui viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous disent à la suite de la conférence? Je serais curieux.
Ah, ben écoute, ça me fait penser à une jeune aussi que j'ai rencontrée l'année passée. J'ai eu la chance d'être présidente d'honneur pour justement le Salon des handicapés à Saint-Roch-de-la-Chiguan. Et pour moi, une jeune qui est venue me voir, elle m'a dit, écoute, j'étais pas certaine de continuer. Elle voulait vraiment tout abandonner. Puis elle m'a dit, juste à t'écouter. Puis elle avait une jeune de 17 ans et elle savait pas trop où est-ce qu'elle s'en allait. Puis là, je viens d'avoir ces nouvelles, justement. C'est drôle de vous mentionner ça. Et bon, elle a continué en psychologie. Donc, moi, ça me touche énormément que j'ai pu avoir un impact dans sa vie.
Claudia Nigrelli, vous êtes un exemple de persévérance. Vous êtes du soleil. Merci beaucoup pour aujourd'hui.
Merci
On beaucoup. Se reparle la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Bonne
Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Canal M, c'est notre émission Regard sur le monde. Et cette semaine, eh bien, c'est la semaine de la persévérance scolaire. Et on a pensé faire une incursion pour voir qu'est-ce qui se fait au Québec au niveau de la persévérance scolaire dans les commissions scolaires. Et s'il y a une commission scolaire qui donne l'exemple, c'est bien la commission scolaire de la région de Sherbrooke avec sa fondation, la Fondation pour les élèves. Depuis maintenant 10 ans, la CSRS et la Fondation pour les élèves ont établi un climat favorable à une synergie des forces vives de la région pour promouvoir la persévérance scolaire et la réussite de tous les élèves. On mentionne, le décrochage n'est pas un problème scolaire, il concerne l'ensemble de la société puisqu'il amène des jeunes vers la pauvreté, l'exclusion et la précarité. Il est donc réjouissant que la communauté prenne en charge sa jeunesse afin de lui assurer un solide avenir économique et social. Monsieur Serge Audet, directeur du développement à la Fondation, bonjour.
Bonjour, Monsieur Poulin.
Vous avez, dans le texte que j'ai lu, qui fait partie de votre documentation, il y a vraiment une prise en main de la communauté dans la région de Sherbrooke avec la Fondation pour justement contrer le décrochage et maintenir la persévérance scolaire.
Ben oui, tout à fait, parce que ça devient une volonté du milieu et tout le monde se l'approprie, que ce soit de la PME à la grande entreprise ou à l'individu. C'est un support concret à nos enseignants qui travaillent terriblement fort et qui sont très dédiés à l'éducation, à la persévérance scolaire. Donc, que ces enseignants-là se sentent appuyés dans leurs différents projets, bien, je pense que c'est une valeur ajoutée très marquante.
Dans la mission de la Fondation, vous le mentionnez d'ailleurs, que la Fondation est au cœur de la réussite scolaire des jeunes en permettant la réalisation d'initiatives visant la persévérance scolaire. Et justement, j'aimerais qu'on en parle de certaines initiatives. Parce que vous dites que la communauté puisse atteindre son plein potentiel, il est nécessaire que chaque individu ait un parcours scolaire complet qui lui permette de réaliser ses ambitions futures. Et je pense qu'au niveau de la question là, du plein emploi, on parle de ça, mais il y a des entreprises qui ont de la difficulté à trouver du personnel. C'est directement relié à la persévérance scolaire.
Ben, tout à fait, parce qu'effectivement, tout le monde n'ira pas à l'université, tout le monde n'ira pas au cégep. Donc, il faut peut-être valoriser et favoriser aussi tout ce qui s'appelle les métiers. Ce qu'on appelle, dans mon jeune temps, on appelait ça le corps des métiers. Mais tout ce qui s'appelle la formation professionnelle, je pense que c'est de mettre ça en évidence et de supporter. Et les besoins sont grandissants et concrets dans une région comme la nôtre, comme partout dans le Québec, bien entendu. Donc, la Fondation, en association avec des entreprises privées ou de la construction, on a développé ensemble des programmes et des projets concrets qui vont aller directement dans l'entreprise. On écoute le problème de l'entreprise et on voit si le système d'éducation local peut s'ajuster. Et je peux vous dire que présentement, les enseignants et les directions d'école sont très ouverts à porter des ajustements concrets pour favoriser ces implications-là.
Donc, il y a un pont de communication entre l'entreprise et le milieu de l'éducation.
Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il faut écouter l'entreprise. Vous savez, avant, les commissions scolaires ou le milieu de l'éducation formaient les élèves et l'entreprise allait piger dans ce qu'il y avait dans le bassin. Aujourd'hui, l'entreprise a des besoins plus spécifiques, des besoins plus déterminés. Donc, on a établi un pont de communication entre les entreprises qui disent à la commission scolaire, ton projet ou ta formation, pourrais-tu l'adapter de telle façon, être réalisable selon les normes, selon le cursus indiqué par le gouvernement? Mais si oui, est-ce qu'il y a moyen d'apporter des gestes concrets? Et c'est un peu à ça que nos entreprises et notre corps éducatif ici se lancent en action.
Vous avez, parce qu'on parle depuis une bonne dizaine d'années que vous travaillez sur tout l'aspect persévérance scolaire, vous avez des résultats à date qui sont extrêmement intéressants?
Ben écoutez, chez nous ici, quand on a débuté il y a 10 ans, quand la fondation a été créée, on était dans le peloton de queue pour ce qui est du décrochage scolaire. On était parmi au Québec, on était parmi une des commissions scolaires les plus marquées par ça. Pas la dernière, mais pas loin. Aujourd'hui, on est dans les 4 à 5 premiers. On est autour de 18% de décrochage scolaire, de décrochage, effectivement. Donc, les actions ont porté fruit. Nous, la Fondation, nous sommes un outil. Parce qu'il faut se rappeler que c'est vraiment les enseignants qui font la différence auprès des jeunes.
Dans particulièrement dans ce que vous faites, il y a plusieurs éléments. Il y a l'entrepreneuriat, il y a l'école, famille, communauté, la culture, le sport, développer, encourager. Bien sûr, la formation professionnelle, on en a parlé. J'aimerais ça qu'on parle, parce qu'on aura l'occasion de le faire tout de suite après la pause aussi, mais qu'on parle de certains éléments qui vous caractérisent dans les projets que vous avez mis de l'avant ou enfin que vous supportez. Entre autres, il y a le projet robotique. Qu'est-ce que c'est que le projet robotique?
Bien, la robotique existe partout dans le Québec. Il y a des groupes qui s'appellent First Robotics et compagnie comme ça. Mais nous, ici, depuis 2 ans, on a mis l'accent sur la robotique au niveau du primaire aussi. On donne un coup de main et on accompagne les écoles au niveau du primaire. Il y a différents paliers, que ce soit de 5 ans à 9 ans, 9 ans à 13 ans, et après ça, 14 ans, 13 ans en montant, qui s'adressent plus aux élèves secondaires. Mais déjà, dès le primaire, on essaie d'inculquer tout ce qui s'appelle la robotique. Ça s'appelle en collaboration avec les jeux Lego, bien entendu, mais c'est national. Mais nous, on a supporté plus particulièrement ces écoles-là. On a aussi ce qui s'appelle la zone 01, qui est une autre approche de la robotique. Donc, on sait que le gouvernement, le gouvernement actuel, a identifié tout ce qui s'appelle le codage informatique. Fait que c'est un peu dans ce sens-là qu'on va supporter et accompagner notre jeunesse à aller vers le codage informatique.
Pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est que le codage informatique?
Ce qu'on appelle des lignes de code. Donc, il faut programmer le robot à faire une action très précise, aller déposer quelque chose sur un jeu, aller chercher un morceau dans un coin d'un jeu particulier. Donc, il faut programmer. Le codage, c'est ce qu'on appelle vulgairement la programmation. Donc, déjà, au niveau du primaire, on essaie d'accompagner nos jeunes à développer cette nature-là. Et ça fait en sorte que les jeunes communiquent en cru, parce qu'ils s'échangent. Hein? Les jeunes s'échangent. Regarde, j'ai mis telle ligne, ça y fait faire tel jeu, ça y fait faire tel mouvement. Donc, ça amène une animation très importante entre les jeunes et c'est la voie de l'avenir. On est très conscient que tout ce qui s'appelle l'informatique et la robotique, c'est l'avenir. On parle de la réalité virtuelle, ben, je veux dire, c'est l'amorce vers ça.
On va parler aussi avant la pause, parce que je trouve que c'est un programme extrêmement intéressant et j'ai jamais entendu parler de ça à l'extérieur de l'Estrie. Le programme Accès 5, qu'est-ce que c'est que ce programme que vous supportez?
Le programme Accès 5, c'est en collaboration avec une maison des jeunes. On l'appelle la maison jeunesse dans l'île de Sherbrooke. La maison jeunesse est jumelée avec une école qui s'appelle la Montée de Lebert. Ce sont des jeunes qui, au début du secondaire, dès le secondaire 1, sont identifiés ou ont du potentiel des décrocheurs. OK? Ils sont conscients, que ce soit le milieu familial, que ce soit le milieu de formation, ou que ce soit parce que, je veux dire, on est moins porté vers l'école, les jeunes s'inscrivent dans Accès 5. Il y a l'accompagnement pédagogique régulier, mais après ça, tout ce qui s'appelle accompagnement externe est fait par des travailleurs dans la maison jeunesse. Donc, c'est des jeunes, je ne vous dirais pas travailleurs de rue, mais genre travailleurs de rue, qui vont accompagner les jeunes, que ce soit dans les récréations, que ce soit pour aller faire l'achat des livres à l'automne. Les jeunes vont aller, la maison jeunesse vont aller avec les étudiants et les parents et les cercles d'amis. Quand arrive l'heure du midi, les jeunes de la maison jeunesse sont aussi dans le milieu scolaire avec toute la gang, comme on peut dire. Et à 4h, 4h30 ou 5h, quand les cours terminent, on s'en va à la maison jeunesse. À la maison jeunesse, on fait des jeux, on fait de l'informatique, quoi que ce soit, mais on est un groupe de travail qui parle de persévérance scolaire. Et simplement vous dire que la première cohorte, qui était environ 150 étudiants, ben je veux dire, on est rendu à, parce que c'est 60 étudiants, excusez-moi, par cohorte. Dans la première cohorte, sur 60 étudiants, 51 ont eu leur diplomation de secondaire. Donc, c'est important de les amener à ça. C'est un peu à quoi sert le programme Accès 5.
Donc, c'est un programme d'accompagnement. On prend le jeune dès le départ, dès le début du secondaire. On sait que quand on débute notre secondaire, on est dans une période de notre vie qui est parfois bouleversante ou enfin qui est... on se moule dans notre vie à partir de secondaire 1. Donc, vous les prenez vraiment par la main et puis vous les accompagnez pendant 5 ans pour qu'ils réussissent leur secondaire 5.
Et c'est une volonté du jeune. Il faut que le jeune veuille. C'est sûr et certain qu'il faut l'accompagner. Il faut que le jeune ait une démarche avant de dire « Moi, je vais embarquer dans Accès 5. » Je vais vous dire honnêtement, on a des parents qui parfois nous appellent et nous disent « Hey, j'aimerais ça que mon jeune soit dans Accès 5. » Mais c'est pas des jeunes à décrochage scolaire, c'est des jeunes à parcours plus normal. Donc, on essaie de comprendre que c'est pas une sélection qui se fait par « je m'inscris là ». Il faut vraiment avoir une démarche accompagnée dans ça et identifiée.
Et parlez-moi, juste avant la pause, justement de la diplomation. Vous avez vécu un événement très touchant à l'Hôtel de Ville de Sherbrooke.
Bien, lors de la première cohorte, effectivement, quand est arrivé le temps de faire la diplomation, les élèves étaient tous réunis dans le milieu, dans le centre à l'Hôtel de Ville de Sherbrooke. Tous les jeunes avaient tous un sarrau comme les étudiants d'université avec un petit chapeau et compagnie. Et là, on a vu de tous les genres, que ce soit des jeunes avec tatouages, des jeunes qui ont moins réussi, des gens de différentes ethnies. Tout le monde était là. Et la fierté et la grandeur des sentiments qu'on pouvait voir dans les yeux et dans les sourires de ces jeunes-là qui allaient recevoir leur attestation de secondaire 5. Et ça, c'était drôlement important et intéressant. Et je vous dis qu'il y avait beaucoup d'émotions. Il y avait dans la salle, en plus des étudiants, pratiquement 200 adultes ou accompagnateurs ou parents. Et je vous dis que l'émotion était palpable.
On vous garde avec nous, M. Audette. On vous retrouve après la pause et on continue à parler de persévérance scolaire.
Merci.
Vous écoutez Regards sur le monde. On poursuit notre entretien avec M. Serge Audette, qui est directeur du développement à la Fondation des élèves de la commission scolaire de Sherbrooke. On parle, M. Audette, de certains éléments que vous avez mis en place pour justement aider à la persévérance scolaire, et ça fonctionne très, très bien. On va aller du côté de la culture. Vous avez un concours qui s'appelle « Sors de ta bulle » et qui existe depuis plusieurs années. Qu'est-ce que c'est que ce concours?
Nous en sommes à notre 15e édition cette année. 2019 va marquer le 15e anniversaire. Ce sont des jeunes de secondaire 3 et 4 qui commettent un essai littéraire en début d'année. Tous les jeunes, au début, il y avait une école secondaire dans ça. Maintenant, il y a les 4 écoles secondaires de la Commission scolaire de Sherbrooke. Il y en a de l'école, la Commission scolaire des Sommets et la Commission scolaire des Hauts-Cantons. Les jeunes commettent un essai littéraire. Il y a un jury de professionnels auteurs qui lit tous les essais littéraires. Et à la fin de l'année, on couronne ou on nomme l'auteur de l'année. Donc, un jeune ou une jeune fille ou un jeune homme va avoir son essai littéraire reconnu et il va avoir un an pour produire un livre, pour publier, pour compléter son histoire, accompagné par des professeurs, des enseignants et des auteurs émérites. Mme Desrochers, Clément Desrochers a déjà participé à ça. Et donc, ce sont des gens, des professeurs émérites, qui vont mettre de l'avant le livre. L'année d'après, on imprime et on produit le livre, on édite le livre. qui, lui, ce livre-là, va être vendu en librairie, bien entendu, mais il va aussi servir de livre de travail pour la prochaine année, pour les confrères de tâches des prochaines années. Donc, nous allons en être à notre 15e édition, et pour la première fois en 15 ans, cette année, en juin, c'est un jeune homme qui va publier son roman.
Et depuis 15 ans, donc, est-ce qu'il y a eu des... Je serais curieux de savoir s'il y a eu des retombées de la première cohorte. Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait carrière? Est-ce qu'ils ont publié autre chose par la suite?
Vous me prenez à drôle pour point, mais écoutez, je vous dirais qu'il y a au moins 3 auteurs connus. Je serais peut-être en mesure de vous donner l'information, vous faire parvenir ça, mais on a au moins 3 auteurs connus qui publient présentement des livres chez les jeunes et qui font en sorte de poursuivre effectivement les démarches dans ce sens-là. Plusieurs élèves ont poursuivi au cégep en écriture, en culture.
Donc, ça leur a donné le goût. On va parler de développement, toujours dans le cadre de la persévérance scolaire, de l'encouragement. Parlez-moi du gala des Bravos.
Quel événement! Je pense que vous y avez assisté.
Oui, effectivement.
Vous avez invité l'an passé. Oui. Cette année, nous en étions à notre 18e édition. Ça se passe au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, la plus grande salle de spectacle qu'on a ici à Sherbrooke, où est-ce que des grands artistes se produisent. À tous les ans, on rend hommage, on donne un bravo. Un bravo, c'est un petit trophée fait directement par des élèves, c'est une claque dans le dos, c'est une tape dans le dos qui dit « lâche pas, continue ton travail ». Ce n'est pas un gala de reconnaissance des performants, c'est un gala de reconnaissance des persévérants. Donc, tous les niveaux de jeunes y passent, que ce soit des personnes handicapées, des gens d'autres origines, des gens qui arrivent d'un pays qui n'ont pas encore parlé français. Cette année, on avait 2 jeunes demoiselles qui nous ont fait un chant. Les 2 sœurs ont chanté dans leur langue pour pouvoir nous exprimer parce qu'ils viennent d'arriver au Canada il y a environ 6 mois. Et donc, on reconnaît tout ce qui se passe à l'Université de Sherbrooke, et je vous dirais, là, c'est devant 1500 personnes, que ce soit les parents, les familles, les amis, il y a 1500 personnes qui sont là, sur la scène, sur la grande scène du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. On reconnaît la performance. Il y a des adultes, des gens qui ont eu, je vous conte une anecdote, l'an dernier, on a une maman qui a eu 2 fausses couches et qui a eu un cancer. Et malgré tout ça, elle a décidé de retourner à l'école l'an passé. Elle est allée au Centre Saint-Michel et vous auriez dû voir. Quand elle a reçu son bravo, qui est un petit trophée bravo qui est fait par des élèves de la commission scolaire, tout le long, elle tournait le bravo dans ses mains et on voyait les larmes couler. Je vais vous dire que c'est émouvant d'avoir, c'est le succès, c'est la réalisation de dire, ben, regarde, je lâche pas, je continue. Cette année, on avait un jeune homme dans un fauteuil roulant qui, lui, ne parle pas du tout, du tout, du tout. Mais c'est lui, ce qu'on nous disait dans la description du jeune homme, c'est lui qui va dire en classe par des signes, par des sons, « Hey, t'es pas correct » ou « T'es trop tannant » ou « Hey, tu t'es trompé ». C'est ces genres de choses-là qu'on fait au Gala des Bravos. On reconnaît la persévérance scolaire.
Vous reconnaissez de petites et de grandes choses qui font finalement quelque chose d'immense en bout de ligne.
Ben oui, tout à fait. Comme je vous dis, ce ne sont pas les performants. Ce sont les persévérants, les gens qui l'ont peut-être pas facile, puis que pour eux, c'est pas évident d'aller à l'école. Et là, ils se retrouvent debout devant 12, 13, 1400 personnes, et ils reçoivent ce bravo-là. Et ça va de la petite puce de 5 ans jusqu'à la personne au cours des adultes qui a décidé de reprendre ses études et de poursuivre.
Quels sont les commentaires que vous recevez de la part des gens, justement, qui assistent au bravo? C'est quoi les commentaires des gens, de façon générale?
Je vous dirais que tout le monde est ému. Tout le monde est impressionné de voir que la commission scolaire fait ça. Et je vous dirais, et ça, c'était un commentaire que j'ai entendu et que j'ai partagé avec quelques gens, puis les gens me disaient oui, c'est la mission de l'école publique. La mission de l'école publique, c'est de donner un coup de main à des gens qui n'ont pas facile et pour qui ce ne sera pas évident nécessairement d'aller à l'école. Puis c'est un encouragement aussi pour les familles. Il y a des familles qui viennent nous voir, viennent nous dire merci. Merci de féliciter, merci de m'aider à convaincre mon enfant de poursuivre ses études. Et ça, je pense que c'est ça notre mission, puis ça, on peut dire travail accompli.
En terminant, il nous reste à peine quelques minutes. J'aimerais qu'on parle bien sûr de la formation professionnelle, parce que c'est un levier économique important. Qu'est-ce que c'est Propulsion Jeunesse Desjardins?
Propulsion Jeunesse Desjardins, ce sont des activités parascolaires en lien avec un programme d'études que vous voudriez compléter, que ce soit dans le milieu agricole, dans le milieu mécanique. Ça va être, après ça, des intégrations dans certains milieux de travail. On va avoir aussi la concomitance. la concomitance, tu finis ton DEP tout en travaillant. Donc, tu vas avoir 2 ou 3 jours de travail en entreprise, dans le métier que tu veux avoir, tout en allant chercher ton DEP, ton diplôme des études professionnelles. Donc, on va aussi faire ça. Donc, Profession jeunesse s'adresse aux étudiants qui débutent et la concomitance va s'adresser aux étudiants qui sont rendus à avoir fait le choix du métier, que ce soit mécanicien, que ce soit plombier ou que ce soit un bricoleur. Tu as fait ton choix, on va t'accompagner dans ça vers la réalisation et vers l'atteinte de ton diplôme d'études professionnelles. Parce que ce qui est important, c'est pas le nom du diplôme, c'est d'avoir un diplôme signifiant pour l'étudiant. Un diplôme signifiant, c'est aussi bien un diplôme d'électricien, de plombier, d'études professionnelles que d'avoir un diplôme de médecin. Il y a des gens, vous savez, les gens, il faut valoriser ces emplois-là. Ce sont les emplois importants qui font la différence dans notre vie.
La commission scolaire de la région de Sherbrooke, c'est 23 000 élèves répartis dans 36 écoles primaires, 4 écoles secondaires, 1 école pour accrochage, 2 écoles spécialisées, 1 centre de formation professionnelle et 1 centre pour adultes. Monsieur Audet, on sent dans vos propos et dans votre voix énormément de plaisir à faire ce que vous faites.
Ben oui, effectivement, j'y crois. Puis je pense que c'est vraiment une cause importante. C'est notre avenir, puis notre jeunesse, c'est l'avenir. Et si nos jeunes peuvent rester à l'école, vous savez, on dit souvent que nos garçons sont pas persévérants à l'école. Il faut les encourager, il faut rendre l'école le plaisir, il faut rendre l'école, comme je dirais, le fun, excusez l'expression anglaise, mais je pense que c'est ça la différence. Il faut encourager nos jeunes hommes à rester à l'école.
En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que avec le travail que vous faites, vous investissez vraiment dans la relève et c'est tout à votre honneur. Monsieur Serge Audet, directeur du développement à la Fondation de la Commission scolaire, la Fondation des élèves de la Commission scolaire de Sherbrooke, merci infiniment d'être venu à notre micro et continuez votre formidable travail.
Merci pour ce beau cadeau que vous nous faites aujourd'hui.
À bientôt. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri. Sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Petite Marie, je t'attends transi sous une tuile, ton toit, le vent de la nuit froide me renvoie la ballade que j'avais écrite pour toi. Petite furie, tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt au soleil de Floride. Moi, mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi.
musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour.
Sur Canal M, c'est notre émission Regards sur le monde et on va rejoindre Mme Anne Jarry, professeure agrégée de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Bonjour Mme Jarry.
Bonjour, bon après-midi.
Merci,
Michel.
Vous aussi, merci. On a, la semaine dernière, on a parlé d'une enquête, enfin, au niveau des recherches que vous faites, et c'était une enquête sur les stratégies utilisées par les adultes non-voyants pour résoudre des problèmes informatiques. Et je souhaitais qu'on poursuive la discussion parce que c'était extrêmement intéressant, de, entre autres, de constater. D'ailleurs, je vais juste rappeler l'objectif de l'étude, c'était d'acquérir une meilleure compréhension des difficultés que doivent relever les personnes aveugles dans leur utilisation de diverses technologies informatiques, pouvant ou non être résolues sans le soutien d'une personne voyante. Et dans les constats, 41% des expériences étaient considérées comme étant négatives. Et moi, je voulais qu'on en parle de ça parce que c'est décourageant.
en fait, ce qui est le 41% des commentaires étant plus négatifs, était davantage lorsqu'on souligne une sous-catégorie des questions qui vise à savoir quelles sont les difficultés les plus fréquentes. Et les plus fréquentes se produisent lorsqu'il y a un changement de système d'opération. De operation system, je m'excuse pour l'anglicisme, lorsqu'on change de version d'application. On passe de Windows XP à Windows 7 ou à Windows 8 ou à Windows 10, où on passe d'une version précédente à une version plus courante. Et à partir de ce changement, comment se passe le changement? Et donc, le changement se passe qu'il y a 41% des expériences qui sont très difficiles et négatives et frustrantes. Et l'autre pourcentage qui est de 32%, que c'est moyen, puis 14% qui dit « Ah, c'est intuitif et facile ». Mais je dirais que le pourcentage qui est plus minoritaire, c'est ce qu'on appelle les « power users », eux qui trouvent ça facile. Mais disons que pour la grande majorité, c'est passage d'un modèle à un autre qui nous sort de nos chaussures confortables pour arriver à un nouveau modèle avec des nouveaux modèles de menus ou de rubans ou de nouvelles façons de naviguer à l'intérieur d'une application, c'est considéré à 41% des gens qui ont participé au sondage comme étant très difficile et frustrant.
Quels sont les autres constats de cette recherche?
Un constat qui est quand même assez important pour des gens qui habitent le Québec, c'est que les francophones ont manifesté avoir besoin de beaucoup plus souvent d'aide de personnes humaines pour régler des problèmes au niveau fonctionnel que les Américains qui, eux, ont très souvent des outils, des didacticiels, des blogs, des façons en ligne d'aller chercher toutes sortes de méthodes, des didacticiels qui sont écrits au départ en anglais, qui ensuite, parfois, viennent à être traduits en français, mais c'est plutôt rare. Alors, c'est frappant à quel point les difficultés chez les francophones sont liées à un manque d'accès à des outils pédagogiques en français et à des retards dans la traduction des logiciels qui arrivent souvent sur le marché six mois plus tard que les versions en anglais. Donc, des frustrations au niveau de la langue qui ressortent dans cette étude.
Quelle est la suite d'une recherche semblable? On fait des constats, mais quelle est la suite maintenant?
En fait, ce qui serait important, étant donné qu'au rythme où les technologies avancent, il faudrait en prendre un type d'environnement et de faire des recherches davantage qualitatives. De regarder si on ne pourrait pas prendre un petit groupe et leur demander de tenir un petit journal de bord pour voir au quotidien quelles sont les difficultés rencontrées et non pas d'une façon plus, dans ce cas-ci, c'était plus un sondage avec nous donner les trois difficultés les plus souvent rencontrées versus les personnes à qui demander de l'aide. On pourrait partir donc de données plus quantitatives et de ramener ça vers quelque chose de plus qualitatif pour voir le quotidien, à quoi ressemble ce quotidien au niveau qualitatif.
Donc, il reste encore beaucoup de travail à faire et comme vous dites, comme la technologie avance extrêmement rapidement, Des fois, on a peut-être l'impression de... C'est un peu comme le canard qui pédale beaucoup en dessous, mais bon, ça semble... Oui. C'est un peu oui. ça qui se produit, là.
Oui, en fait, on a de la difficulté à rester à jour. Je pense à ça aussi, que même pour ceux qui travaillent dans le domaine et qui donnent du soutien aux usagers, ils ont de la difficulté à rester informés de toutes les nouvelles plateformes, de toutes les nouvelles technologies qui sortent à un rythme galopant. Alors, c'est peut-être une réflexion qu'on doit avoir à savoir est-ce qu'on encourage les gens à utiliser plusieurs technologies, parce que cette étude nous démontre aussi qu'il y a plusieurs différents types de technologies qui sont utilisées par les usagers qui ont répondu à ce sondage. Alors, souvent, les gens ont plus qu'un appareil. Ils vont avoir un ordinateur portatif, un mobile, un iPad, un iPhone. Donc, on a de la difficulté, je dirais, à suivre le rythme à laquelle les technologies évoluent. Mais, comme je dis souvent dans le domaine de la recherche, c'est un continuum. On n'a jamais terminé avec une étude. On regarde l'état d'une situation dans l'année où l'étude a été faite et on regarde les limites de cette étude. Et je dirais que les limites de cette étude étaient que pour avoir réussi à remplir le questionnaire, ça démontre déjà que c'était des usagers relativement expérimentés. Alors, les prochaines études pourraient aussi prendre une autre facette et dire, regardons maintenant ceux qui ont moins l'habitude de remplir des formulaires en ligne sur Internet. Et qu'est-ce qu'on fait avec une clientèle qui a peut-être un niveau d'aisance moins élevé que ceux qui ont répondu à ce sondage? Donc, la recherche, c'est un continuum et il y a toujours une limite à la photo qu'on a prise l'année où on l'a prise. Et il y a de la place pour une prochaine recherche en précisant le groupe d'âge à qui on s'adresse, la langue qu'on vise à découvrir. Comme par exemple, vous disiez, ça serait quoi les prochaines étapes de cette recherche? Il y en a plusieurs. Alors, j'ai dit tout à l'heure, on pourrait faire une recherche qualitative pour voir le quotidien. On pourrait aussi regarder est-ce qu'il y a des difficultés chez les hispanophones comparativement aux anglophones. Est-ce que c'est la même chose que chez les francophones? Parce que lorsqu'on est un groupe minoritaire sur un continent américain, ben oui, les produits qui sortent en anglais vont être peut-être plus rapidement disponibles d'un point de vue commercial que pour une deuxième langue.
Exact, oui.
Est-ce qu'on aurait ce problème-là également? Donc, c'est sans fin. C'est sans fin, la recherche.
Bon, bien, justement, on va en parler encore beaucoup de recherche parce que c'est un sujet qui me passionne énormément et qui passionne la majorité de nos auditeurs. Alors, on se reparle la semaine prochaine, Mme Jarry.
Très bien.
Merci. Bonne semaine. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Comment t'as fait, maman, pour savoir que papa, beau temps et mauvais temps, il ne partirait pas? Est-ce que t'en étais sûre? Oh, si tu savais pas, est-ce que les déchirures, ça se prévoit? Comment t'as fait, maman, pour trouver le bon gars? Tu l'as connu comment? Tu l'as aimé pourquoi? Est-ce qu'il y en avait juste un dans tout le présent siècle? Et il se trouve que c'est toi qui dors avec. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort c'est mon père. Comment ça se fait, maman, que dans ma vie à moi, avec autant d'amants, avec autant de choix, j'ai pas encore trouvé un homme comme lui, capable d'être ami, père et mari? Comment t'as fait, maman, pour lui ouvrir ton cœur, sans qu'il parte en courant avec ce que t'as de meilleur? Est-ce qu'il y a des mots magiques que t'as dit sans te rendre compte? Explique-moi donc ce qu'il faudrait que je raconte. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort c'est mon père. Et quand j'ai l'air de les aimer, les hommes changent de regard. si j'ose m'attacher, ils se mettent à m'en vouloir. Si je parle d'avenir, ils sont déjà loin derrière. J'avais raison de le dire, le plus fort c'est mon père. Vas-tu me dire, maman, comment t'as pu savoir dès le commencement que c'était pas un trouillard, qu'il allait pas s'enfuir et qu'il allait tout faire pour que je puisse dire, le plus fort c'est mon père. Quel effet ça t'a fait quand tu l'as rencontré? Est-ce que ça te paraissait qu'il allait tant t'aimer? Les hommes, bien souvent, paraissent extraordinaires. Mais dis-toi bien, maman, que le plus fort, c'est mon père.
On est déjà à la toute fin de notre émission Regard sur le monde. C'est le temps maintenant de notre rubrique Coup de cœur, nos petites nouvelles. Eh bien, McDonald's, les restaurants en Israël, équiperont tous ces restaurants d'une application de navigation vocale pour aider les clients aveugles ou potentiellement atteints de démence. Des capteurs placés dans tout le restaurant interagissent avec un tableau de bord central géré par l'établissement et avec le téléphone du client pour lire des instructions vocales personnalisé et fonctionne comme une rampe pour aveugles. Le système utilisé a été conçu par la firme Right Here, un start-up israélien lancé en 2015 et qui s'est installé aux États-Unis en août dernier. La technologie peut être ajoutée à la plupart des types de bâtiments publics, y compris les centres commerciaux, les universités, les aéroports, les supermarchés et les restaurants. Les clients téléchargent l'application gratuitement sur les appareils Apple ou Android. McDonald's Israël, la plus grande chaîne d'Israël, est une entreprise privée qui exploite plus de 180 restaurants, dont une cinquantaine sont cachers. C'est la première chaîne à mettre en œuvre une solution semblable à l'échelle du système et comme les restaurants McDonald's d'Israël sont indépendants de la maison mère, il n'est pas certain que cette technologie s'étendra au réseau mondial de la chaîne. Néanmoins, l'adoption de cette application par une marque aussi connue pourrait inspirer d'autres entreprises à suivre son exemple et adopter la technologie Right Here. Dans un autre ordre d'idées, les personnes qui adoptent une alimentation de type méditerranéen ont 40 % moins de risques d'être touchées par une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Dans les pays industrialisés, la dégénérescence maculaire liée à l'âge est la principale cause de perte de vision, avec jusqu'à 35 % des personnes âgées de 65 ans et de 75 ans et plus qui sont touchées par cette maladie. La macula, située au centre de la rétine, est très riche en photorécepteurs, les cellules hyper spécialisées qui captent la lumière et nous permettent de percevoir les détails et les couleurs du monde qui nous entoure. Alors, au cours de la dégénérescence maculaire, ces cellules cessent progressivement de fonctionner. Il y a alors détérioration graduelle de la vision et une perturbation des fonctions visuelles de base nécessaires pour lire, conduire et reconnaître les visages. Les études réalisées jusqu'ici indiquent que le risque de développement d'une dégénérescence maculaire dépend d'une combinaison de facteurs génétiques et du mode de vie, ce qui suggère que cette détérioration de la vision pourrait être en grande partie prévenue. Alors, il y a plusieurs études épidémiologiques qui ont observé une diminution du risque de dégénérescence maculaire chez les personnes qui consomment des quantités élevées d'acides gras oméga-3 présents dans les noix et les poissons, ainsi que de lutéine et de zéaxanthine, deux antioxydants présents dans certains végétaux. Donc, le régime méditerranéen représente un bon modèle d'étude pour explorer cette possibilité, puisque ce mode d'alimentation est basé sur la consommation abondante de végétaux, incluant les noix, de même qu'un apport régulier de poisson au lieu de viande rouge. Alors, de plus, plusieurs études ont montré que les personnes qui s'alimentent de cette façon sont moins à risque de développer plusieurs maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, par exemple, diabète, certains cancers, ainsi que des maladies touchant les yeux, comme les rétinopathies diabétiques. Alors ça nous donne une bonne idée que le régime méditerranéen est bon pour la santé. Une petite incursion du côté de la déficience intellectuelle, alors que les personnes ayant une déficience intellectuelle qui ont trouvé du travail à leur mesure peuvent très bien contribuer à la société, mais il faudra au Québec assouplir les règles administratives pour les intégrer, soutenir leurs familles immédiates et aider les entreprises à savoir comment les accueillir. C'est ce qui ressort d'une étude publiée par l'Université du Québec à Rimouski sur l'accessibilité des services d'intégration à l'emploi des personnes ayant des incapacités intellectuelles. Les chiffres prouvent des choses intéressantes. Les choses n'ont rien changé avec le temps. D'après Statistique Canada, en 2001, 67 % des personnes déficientes intellectuelles étaient sans emploi. C'était le même chiffre en 2017. Cette situation donne lieu à un appauvrissement. Et petit détail important, en Mauricie, au centre du Québec, 600 personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme sont en intégration au travail. À ce chiffre s'ajoutent près de 400 personnes en intégration en milieu communautaire. Ils sont accueillis par quelques 120 employeurs. Voilà, c'est tout pour notre édition de Regards sur le monde cette semaine. À la régie, Maurice Bolduc. Ici Michel Poulain qui vous souhaite une excellente journée.